rendez-vous du Mondial du bâtiment, le rendez-vous France Relance en partenariat avec Volma, une émission animée par Nathalie Croiset.
Chaque mois, dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous revenons sur le plan France Relance, lancé en septembre dernier. Nous allons mieux en comprendre les enjeux pour le monde du bâtiment. Et le thème ce mois-ci, insertion et compétences. Nous sommes ravis d'accueillir Karine Seller. Bonjour.
Bonjour.
Haut commissaire aux compétences. Vous allez nous en dire plus dans un instant sur vos missions et évidemment les enjeux dans le monde du bâtiment. Mais toujours Guillaume Loiseau à mes côtés, directeur du Mondial du bâtiment. Un mot ?
Oui, Madame Seller, bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir. Pour plusieurs raisons, et une extrêmement précise, c'est qu'on a pour habitude de parler beaucoup de techniques, de réglementation, etc. Mais ce grand défi du climat qui a donné rendez-vous à la profession du bâtiment est aussi un grand défi de compétences, de formation et de création d'emplois. Voilà, d'où cette thématique en lien avec France Relance, parce que le secteur du bâtiment, c'est des hommes et des femmes. Et pour répondre à ces grands défis, il faudra des hommes et des femmes en plus grand nombre, bien sûr, mais surtout bien formés.
Alors nous allons voir, merci, un peu plus concrètement vos missions. Quelques mots quand même de ce haut commissariat aux compétences tout d'abord.
D'abord merci de m'accueillir sur ce thème effectivement qui est particulièrement important, des compétences. Moi je suis en charge donc de mettre en place, déployer un plan d'investissement dans les compétences qui est un plan majeur du quinquennat voulu par le président de la République, qui est un plan de 15 milliards d'euros sur 5 ans. 2018-2022 pour transformer les compétences de notre pays. Nous avons plusieurs objectifs à travers ce plan inédit, sans précédent d'ailleurs quand on se compare y compris à nos partenaires européens. D'abord d'augmenter la part des personnes qui se forment parmi les demandeurs d'emploi. Et c'est un enjeu tout à fait crucial. C'était un enjeu crucial dans une période de relance économique, mais aussi dans cette période de crise que nous traversons, que de préparer ceux qui ont perdu leur emploi ou qui ont du mal à s'insérer sur le marché du travail à des nouveaux métiers, acquérir des nouvelles compétences qui correspondent aux compétences de demain. On sait qu'on va changer plusieurs fois le métier au cours de sa vie professionnelle. Et aussi que les transformations des compétences, les besoins des entreprises se transforment plus vite qu'hier à la faveur de la transformation écologique. De la transformation numérique. Donc on a un objectif très important de former 2 millions de demandeurs d'emploi et de jeunes supplémentaires pendant la période du quinquennat.
Oui, on a bien compris, à la fois évidemment pour ceux qui ont un certain âge, on va dire, et qui doivent continuer à se former, parce qu'il faut se former tout au long de sa vie, et aussi pour les plus jeunes, parce qu'on a quand même, je crois l'année dernière, 750 000 jeunes qui sont arrivés sur le marché du travail, il y en a encore qui sont parfois encore sans activité, ou encore en formation, donc il y a un gros enjeu du côté aussi des jeunes.
Absolument, et alors avec effectivement une priorité très forte qui a été donnée par le gouvernement sur les jeunes, en raison de la crise, on ne peut pas sacrifier notre jeunesse, et cette question de la compétence et de la formation est essentielle. Se former, c'est aussi dessiner l'avenir, à la fois pour les jeunes, leur permettre d'acquérir des compétences, mais aussi pour nos entreprises. Donc avec une priorité très forte, à travers le plan Un jeune, une solution, on va former, en plus de ce qui était déjà les objectifs du plan d'investissement, 100 000 jeunes supplémentaires vers les métiers d'avenir. Voilà, c'est vraiment...
Donc ça a été lancé en juillet 2020.
C'est le plan Un jeune, une solution, dans le cadre du plan de relance, qui a donné ces objectifs supplémentaires que nous portons avec nos partenaires, et en particulier avec les régions qui sont en première ligne sur ces sujets.
Ça veut dire qu'il fallait encore accélérer le mouvement en la matière. On sait que c'est pas simple, l'emploi des jeunes, et aussi avec un marché très mouvant, on va dire aussi.
C'est ça, on a à la fois... une période de crise qui est liée, dont on espère qu'on est en train de dessiner la sortie, et puis des besoins qui évoluent, des besoins des entreprises qui évoluent, des jeunes qui sont sortis sur le marché du travail, qui se sont trouvés, pour certains d'entre eux, confrontés au mur du chômage, et avec cette idée de pouvoir leur proposer des formations soit complémentaires, soit vers des métiers qui recrutent, et le secteur du bâtiment en particulier fait partie des secteurs qui recrutent.
Vous faites la transition parfaite, puisque justement, comme on parle aussi des jeunes, on sait bien que c'est un métier aussi, on a besoin de compétences, mais on a aussi besoin des plus jeunes. Donc, quels sont les besoins dans ce secteur ? J'imagine évidemment que vous êtes très tournée vers ces enjeux du secteur du bâtiment.
Alors absolument, le secteur du bâtiment est un des secteurs dynamiques qui a de forts besoins de recrutement. On a identifié dans le cadre de France Relance et du plan Jeunes une solution les métiers stratégiques pour notre économie. On peut parler aussi du secteur du numérique, l'ensemble des métiers du numérique qui connaissent des très forts besoins de recrutement. On voit bien, il y a le secteur du soin et de la santé qui sont aussi des secteurs dont on a beaucoup besoin aujourd'hui, en tout cas pour lesquels il y a des besoins de compétences qui sont forts. Et puis l'ensemble des enjeux de la transition écologique sont très importants dans la relance. Et parmi les secteurs qui sont impactés fortement par la transition écologique, il y a le secteur du bâtiment avec l'enjeu de la transition énergétique des bâtiments. Ça fait partie, je viens de vous dessiner en quelques mots, les trois priorités clés, en fait, dans le cadre du plan de relance que nous portons. Ça ne veut pas dire qu'on ne forme pas vers les autres métiers, bien entendu.
Bien entendu, mais on est là aussi pour parler du bâtiment, bien sûr.
Voilà, il y a une priorité sur ce secteur-là. Ça prend plusieurs formes. On a très fortement augmenté le nombre de formations qui sont destinées aux demandeurs d'emploi vers les métiers du bâtiment, avec une progression très forte. Les régions qui ont la charge de former les demandeurs d'emploi et qui sont nos partenaires ont pris des engagements très importants. Pour vous donner un chiffre à aujourd'hui, quand on se compare à l'année dernière, on a augmenté de plus 53% le nombre de demandeurs d'emploi qui se forment vers les métiers de la transition écologique des bâtiments. Et cet effort va se poursuivre puisque...
Parce qu'il y a un vrai besoin et parce qu'aussi, on en a déjà aussi parlé parfois dans cette émission, c'est parfois un secteur qui attire quand même moins malheureusement alors qu'il y a des vrais besoins.
Alors absolument, on a un enjeu d'attractivité et l'ensemble des acteurs doivent y contribuer, le secteur lui-même, les entreprises bien sûr doivent y contribuer. On doit sans doute aussi changer un peu les représentations du métier parce que vous êtes un secteur dans lequel il y a des possibilités de progression professionnelle, de carrière qui sont réelles. Et c'est un secteur qui est un secteur du geste où on a aussi une culture du geste qui est très forte et je crois des fiertés aussi d'exercice pour chacun des professionnels. Donc ce sont des enjeux importants. Donc nous travaillons à la fois sur ces enjeux de représentation, mais aussi bien sûr pour démultiplier l'effort de formation. Finalement, la première voie d'accès à vos métiers, c'est l'apprentissage, mais il faut aussi qu'on puisse former ceux qui sont déjà dans le métier. Et puis, forcément, la question de la transformation des compétences. Si on parle de la rénovation énergétique, on voit bien qu'il y a des nouvelles compétences à acquérir. Et donc, cette capacité, finalement, à s'adapter et pour les entreprises, avoir une main-d'œuvre qui est non seulement formée, mais qui est aussi formée aux dernières technologies et peut-être la diversité aussi des technologies.
En tout cas, vous l'avez dit, la rénovation énergétique, c'est vraiment l'un des grands axes sur lesquels vous travaillez, Karine.
Notre objectif, c'est de doubler le nombre de demandeurs d'emploi que nous allons former d'ici la fin du quinquennat sur les métiers de la rénovation énergétique. Donc, priorité sur ces différentes dimensions. Ça n'est pas que quantitatif. L'enjeu, il est aussi quantitatif, mais aussi d'être en capacité de savoir bien identifier les compétences. Et on travaille aussi avec les professionnels dans les régions à identifier les nouveaux besoins de compétences des entreprises et en particulier à identifier des compétences qui ne sont pas forcément encore aujourd'hui pris en compte dans les référentiels de certification, dans les diplômes, mais dont les entreprises nous font part comme étant des besoins importants et qu'on va intégrer finalement au référentiel de compétences. On a plusieurs régions qui ont travaillé sur des modules qu'on incorpore en fait en quelque sorte, pour lesquels on forme les demandeurs d'emploi, même si c'est pas dans le référentiel du diplôme. Je peux vous citer quelques exemples. Le comportement bâtimentaire à la déperdition thermique. Et on sait qu'en fait, entre le besoin de l'entreprise et la façon dont ensuite le diplôme va s'adapter, il peut se passer quelques temps. Là, il s'agit de rendre un système plus vertueux et qui s'adapte plus régulièrement. On travaille, il y a des modules sur les bâtiments biosourcés, qui ne sont pas non plus encore tout de suite, pour le moment, intégrés dans les référentiels. L'éco-chantier, enfin bref, voilà, il y a un ensemble de thématiques. Donc, il y a faire plus, mais aussi faire mieux, faire différemment, prendre plus vite en compte les besoins des entreprises. C'est un peu ça l'enjeu de ce plan.
Alors, il y a aussi autre chose dans ce plan dont on parle aussi ici beaucoup, parce qu'on parle de formation, on parle aussi de digitalisation. Vous travaillez aussi à un plan de transformation et de digitalisation de la formation. Et évidemment, ça s'applique aussi au secteur du bâtiment.
Alors, absolument. D'abord, c'est un gros enjeu. Tout le monde en a pris conscience si c'était nécessaire au moment du premier confinement du mois de mars, quand on a dû, et pour nos enfants et pour les adultes en formation, basculer totalement la formation à distance. On s'est rendu compte qu'on avait, on était en retard, en fait, pour dire les mots de façon claire, en matière de digitalisation de la formation. Et donc, les professionnels ont pris conscience de cela et on veut battre le fer tant qu'il est chaud. Je porte un très grand plan de transformation de la formation de 300 millions d'euros sur l'année qui vient. C'est tout à fait important.
Une grosse responsabilité.
Absolument. Digitaliser la formation. Ça concerne le secteur du bâtiment qui est d'ailleurs on a lancé des pilotes pour digitaliser, créer des modules et en particulier des modules immersifs qui permettent d'apprendre un geste professionnel grâce à l'outil digital, avec des cases de réalité virtuelle, notamment.
C'est intéressant, cette approche, parce qu'on se dit que ce sont des métiers manuels, justement, mais absolument. On peut faire intervenir le geste immersif. Ouais.
Et en fait, absolument. Et d'ailleurs, alors, il ne s'agit pas forcément... On a toujours besoin du présentiel et du plateau technique et d'être sur place, parce que le stress n'est pas le même. On a des choses qui sont irremplaçables avec le présentiel, mais on peut s'entraîner en ligne à un geste professionnel... rendre plus proche en fait la formation et c'est aussi une de nos optiques, c'est de banaliser l'accès à la formation sans rendre le geste banal et c'est ce qu'on veut faire avec ce plan. Donc apprendre un geste professionnel avec de l'immersif, de la réalité virtuelle, et on a lancé 15 pilotes dans 15 secteurs. Il y en a deux qui sont ont été lancés un peu en avance de phase pour faire modèle parmi ces deux, nous avons retenu les métiers ou plutôt les compétences nécessaires à la transition énergétique des bâtiments, la rénovation énergétique des bâtiments. Nous sommes en train de déployer quatre modules, quatre compétences transversales qui vont permettre d'apprendre un geste. Je peux en citer quelques-uns. En particulier, on lance un simulateur 3D d'installateur thermique sanitaire. On va lancer un serious game multimétier, alors le nom est un peu qui permet d'explorer une maison d'habitation et de regarder grâce à cet outil de réalité virtuelle les pertes d'énergie en fait pour les différents professionnels. Ce sont des compétences transversales qu'on a retenues pour que différents professionnels puissent utiliser ces modules.
Oui, c'est ça qui est intéressant. De toute façon, la rénovation énergétique, c'est un sujet transverse, donc vous adaptez, on va dire, à cette problématique.
Absolument. Et là, pour le coup, encore une fois, c'est pas l'État qui décide à la place des professionnels comment il faut construire ces parcours. C'est construit avec les acteurs de votre secteur, avec la FFB, la CAPEBL et des professionnels de votre secteur qui travaillent à nos côtés pour définir justement quelles sont les compétences qu'il faut hybrider. Et ça participe aussi à ce que vous disiez, c'est-à-dire changer la représentation des métiers, attirer des jeunes, former différemment en utilisant des outils de réalité virtuelle, des serious games, ça participe aussi à changer sans doute en partie, pas exclusivement, mais la représentation des métiers.
Mais en tout cas aussi qui peuvent attirer les jeunes finalement à travers ces nouveaux outils digitaux. C'est ça aussi qui fera aussi le fait d'attirer les plus jeunes.
Attirer les jeunes et peut-être aussi les moins jeunes. Oui. Les moins jeunes, rendre l'approche concrète à côté de contenu de formation théorique ou un peu académique. D'avoir aussi un cadre où on valorise le geste par le stage, par la présence en entreprise, mais aussi grâce à cet outil digital, c'est changer les représentations. C'est peut-être aussi, quand on se forme, on a peur d'être jugé, on a peur de mal faire, surtout quand on utilise du matériau, qu'on a peur de gâcher le matériel, d'être mal vu par son maître de stage, son patron. S'entraîner en ligne, démystifier un peu le geste et peut-être permettre aussi l'accès à de nouveaux publics vers ces métiers. Et c'est un peu à tout ça que nous croyons et que ces nouvelles technologies vont permettre.
Ben merci beaucoup à vous. En tout cas, merci aussi d'avoir donné des exemples très concrets, parce que parfois, quand on parle de haut commissaire et haut commissariat aux compétences, on se demande ce qu'il y a derrière, mais on voit que concrètement, il y a de la réalité et qu'en tout cas, vous axez évidemment sur l'emploi et sur les compétences et sur la formation, et c'est vraiment l'enjeu d'avenir.
Absolument. De toute façon, de notre point de vue, on ne peut pas travailler autrement. C'est une très forte conviction de ma part. Nous sommes les investisseurs. On est là pour remettre le pied à l'étrier des jeunes, mais ce sont des entreprises, ce sont les acteurs, les sachants, les faiseurs, ceux qui agissent au quotidien, qui peuvent aussi et surtout rendre ces politiques publiques concrètes et incarnées.
Merci beaucoup à vous, Karine Seller, donc haut-commissaire aux compétences, pour être venue nous parler justement d'insertion et de compétences. Là, je pense que, Guillaume, on a l'exemple parfait de ce que vous disiez.
Je me suis pincé plusieurs fois pour ne pas intervenir, tellement c'est riche et passionnant. Non, ce qui est frappant, c'est qu'on a une approche de ce plan de transformation de compétences qui est tout sauf figé. Il n'y a plus rien de statique dans ce sujet. C'est un petit peu l'image ancienne du sujet de la formation, en tout cas dans notre secteur. C'est extrêmement dynamique. Vous projetez les professionnels dans l'avenir avec les tendances émergentes. Il y a de la transversalité, ça touche tous les parcours, tous les stades de formation. Et puis, amener de la digitalisation dans toutes ces techniques de pédagogique, bien sûr, ça attirera plus la jeune génération, par essence. C'est probablement une autre ou une nouvelle efficacité. Mais quelle belle façon de montrer que ces métiers ont de la valeur. Mettre de la techno, c'est une façon de montrer que ça a de la valeur. Il y a d'autres métiers où le geste est important, auxquels on ne parle pas, naturellement, quand on est professionnel du bâtiment. Quand on est pilote d'avion de chasse ou chirurgien, on utilise la réalité virtuelle. Mmh. Et je crois que ces métiers sont des métiers où le geste est extrêmement important et a de grandes conséquences. Et donc, c'est une façon de mettre les professionnels qui apprennent, quel que soit leur stade, au rang de ces meilleures pratiques pédagogiques grâce au digital. Donc, je pense que ça leur fera extrêmement plaisir parce qu'en fait, ça les valorise tout simplement. Donc, merci à vous.
Voilà, Guillaume Loiseau, enthousiaste. Merci à vous. Merci encore, Karine Seller. On va marquer une courte pause et se retrouver pour le grand dossier du Mondial du bâtiment. Il va être question de la REP, vraiment un sujet aussi qui fait beaucoup parler. La REP, quels enjeux pour le bâtiment? Donc, on se retrouve dans quelques instants.
Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le rendez-vous France Relance en partenariat avec Volma. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.